Bienvenue sur Mucho Radio. Mon nom, c'est Janvier Nahimana. On est ici à Halifax, dans le studio au Lighthouse Art Center. On joint notre invité par téléphone, c'est Yaye Pekasa, président de Pont Bridge Canada, expert en développement des affaires et relations internationales. Par le passé, il a fut chef du bureau de la société économique dans le nord-ouest de l'Ontario. Ensuite, il s'est lancé en administration politique au niveau municipal comme responsable du développement des affaires et des partenariats pour l'Association des municipalités francophones de l'Ontario. L'expérience de M. Pekasa lui a valu d'être élu au conseil d'administration du groupement des agents d'affaires de la capitale nationale. Alors, bonjour Yaye Pekasa, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et quel est votre parcours?
Bonjour Janvier, merci infiniment pour cette opportunité. Je suis extrêmement heureux d'être là et de discuter justement avec les amis de la région justement métropolitaine justement de Halifax. Une ville que je connais très bien puisque je suis un ancien, le tiers ancien de l'Université Sainte-Anne et justement par le passé aussi à l'université, lorsque je faisais mes études, j'ai été aussi animateur radio à la radio communautaire francophone d'Halifax, je pense que c'est CKRH, quelque chose comme ça. Alors, donc je suis très heureux d'être là. Mon parcours justement il est assez finalement typique de tout étudiant international qui ambitionne de venir au Canada pour faire ses études. J'ai atterri au Canada justement il y a à peu près 15 ans aujourd'hui comme pour étudier à l'Université Sainte-Anne. Mais après ça, j'ai déménagé, j'ai quitté la Nouvelle-Écosse et je suis parti en Ontario comme responsable de la Société économique de l'Ontario dans le nord-ouest de l'Ontario. Et après ça, comme responsable du développement des affaires, des affaires gouvernementales au sein de l'Association des municipalités francophones de l'Ontario. Et puis, chemin faisant, depuis 2022, je suis à la tête de Pont Bridge Canada. C'est un parcours typique, comme 90%, 99%, je dirais, des étudiants internationaux qui viennent étudier au Canada restent. J'ai fait pareil, j'ai décidé de rester.
Membre de la diaspora, vous êtes de quel pays?
Et je suis originaire du Cameroun.
Quelle est la mission de Pont Bridge pour le renforcement de la coopération économique entre le Canada et l'Afrique?
En réalité, la mission de Pont Bridge est une entreprise canadienne qui est essentiellement focusée, concentrée justement dans la diplomatie non gouvernementale. Quand je parle de diplomatie non gouvernementale, et c'est important de dire diplomatie non gouvernementale, parce qu'il ne faut pas rentrer justement dans une sorte justement de zone de turbulence compétitive avec la diplomatie gouvernementale qui est un domaine régalien réservé aux États. Ici, dans la diplomatie non gouvernementale, on parle de tout ce qui touche, par exemple, la diplomatie privée, la diplomatie d'affaires, la diplomatie institutionnelle, c'est-à-dire toute forme de diplomatie qui ne rentre pas dans le cadre de la diplomatie normale. Dans d'autres jargons, on parlerait, par exemple, de firmes, par exemple, d'intermédiation institutionnelle. Donc, le but dans tout ça, justement, c'est de pouvoir créer une sorte de plateforme, facilitation pour la coopération entre le Canada et l'Afrique. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons énormément, présents dans à peu près 18 pays sur le continent africain. Nous travaillons avec les ministères, les gouvernements africains. Nous travaillons avec les agences de promotion des investissements sur le continent. Et ici au Canada, on travaille justement avec les groupes patronaux, les groupes patronaux. Et on travaille aussi justement avec les conseils de développement économique, les entrepreneurs, les gens du privé, afin de promouvoir les opportunités d'investissement qui existent en Afrique. Ça, c'est sur l'aspect strictement privé. D'un point de vue institutionnel aussi, on fait cet accompagnement-là avec ce travail justement de développement des relations gouvernementales d'institution à institution africaine et canadienne. Ça peut être justement au niveau parlementaire, au niveau justement municipal, ça peut être justement au niveau des gouvernements locaux et tout. Tout ceci rentre dans le développement, dans la diplomatie institutionnelle. Le troisième pilier justement, c'est l'éducation, où à travers l'éducation, on concourt à pouvoir accompagner des institutions d'enseignement postsecondaire canadiens à pouvoir internationaliser leurs programmes sur le continent africain. sur le continent africain afin de contribuer justement à la démocratisation du savoir. On a vu dans ce cas précis, le rapport des Nations Unies avait accusé le Canada de ne recruter par exemple que des personnes, des cerveaux en Afrique, de contribuer à la fuite des cerveaux sur le continent africain. Cette démarche avec le réseau des collèges et des cégeps francophones du Canada visait essentiellement à dire le Canada ne vient plus peser, faire vider l'Afrique de ses cerveaux, mais le Canada est prêt justement à pouvoir contribuer à pouvoir contribuer directement au renforcement du système éducatif local à travers la délocalisation de programmes.
Je pense que on connaît moins l'Afrique. Alors, pensez-vous que changer le narratif sur l'image de l'Afrique dans l'imaginaire des Occidentaux et de raconter des histoires de notre manière est important?
Je pense justement que c'est important de le faire. Il faut, c'est un travail qu'il faut laisser justement aux intellectuels de pouvoir le faire. Je n'en ai pas la prétention. Il faut changer le narratif. De toutes les façons, c'est un projet pour tout ce qui. Je veux dire, il faut rester très aguerri. Quand tu portes un projet justement qui est en lien avec l'Afrique, est-ce que tu voudrais que des gens qui ont 80% de leur commerce avec un autre pays au sud de la frontière, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient à tirer? Rien du tout. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique, c'est loin, c'est un continent, c'est rien, c'est très loin, ils ne sont pas. Donc, il faut les comprendre. Il y a au départ justement un travail de pédagogie qu'il faut faire. Pour essayer de dire, pour que les gens réalisent à quel point justement ils sont en train de manquer quelque chose qui se passe de l'autre côté justement de l'Atlantique. En réalité, justement, les entreprises canadiennes sont très attachées justement au commerce avec les États-Unis. On le voit comment ça les frappe énormément aujourd'hui. Ils ont été tellement imbriqués avec les États-Unis qu'aujourd'hui, la guerre tarifaire justement est complètement en train de mettre à genoux l'ensemble de l'écosystème. Sauf seulement que ce qu'ils ignorent, c'est qu'entre l'Afrique et le Canada, il y a juste l'océan Atlantique. Ils ignorent qu'entre l'Afrique et le Canada, c'est 6 à 7 jours de navigation. Ils ignorent que l'Afrique représente pour le Canada un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Ils ignorent qu'à 7 jours seulement de navigation de là, il existe un marché de 6,6 trillions de dollars qui peut acheter leurs produits. Il y a un vrai travail de pédagogie là à faire dedans. Donc, vous avez raison qu'il y a un discours qu'il faut avoir, mais nous, notre discours, il est totalement différent. Il est totalement différent et il est basé exclusivement sur des perspectives économiques. On n'est pas là pour dire aux gens « Non, s'il vous plaît, l'esclavage est monté, l'esclavage est descendu, les communautés, le racisme et tout ça. » Je veux dire, il y a un vrai problème. Il faut restructurer justement la façon même de penser justement des immigrants, la façon justement de penser dans cette perspective-là. Il ne faut pas aborder des questions essentiellement économiques en avançant des arguments d'ordre social comme le racisme ou encore de la discrimination. Il faut avancer très solidement, il faut avancer très fièrement avec des solutions concrètes et prêtes à réagir. Les gens doivent comprendre justement qu'aujourd'hui, envisager d'aller faire les affaires en Afrique, ce n'est pas une faveur. Si tu veux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien PDG justement du Crédit Suisse, il dit ceci. Si j'avais 100 000 dollars à investir, je n'irais pas l'investir justement dans la Silicon Valley. J'irais l'investir en Afrique. Parce que sur une période de 10 ans, l'Afrique, mes 100 000 dollars sont susceptibles de me rapporter 10 fois plus que ce qu'ils m'auraient rapporté à la Silicon Valley. C'est ça la réalité qui est là. Et c'est dire que quand on parle, par exemple, de perspective de coopération, d'échange économique avec le continent africain, il ne faut pas l'aborder sur des questions de changement de discours pour faire ça. Et ça, ça va commencer justement par la perception que nous avons justement des forces que nous, la façon que nous regardons justement l'Afrique aujourd'hui. Donc, il y a un vrai travail sur nous-mêmes d'abord. Je ne suis pas là parce que je veux changer le discours. Je vais changer peut-être le discours. Je suis là simplement parce que je crois, et c'est probablement ça qui fait qui fait toute performance, toute la crédibilité, que peut-être tout le regard qu'on porte sur moi est différent, c'est que quand j'arrive autour de la table, je ne suis pas là pour commander quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour demander aux gens. Je suis là simplement pour présenter des opportunités réelles, crédibles et très soutenues. Et quand je quitte la table, je ne demande pas aux gens nécessairement de vouloir me suivre ou bien. Ceux qui me suivent le savent. Nous avons des entreprises canadiennes qui sont aujourd'hui en Afrique et qui brassent des millions de dollars justement à l'année. L'industrie minière ne serait-ce qu'au Canada, n'est pas la seule chose que le Canada a à offrir. Donc, les marchés sont là, les marchés sont importants dans le secteur des infrastructures portuaires uniquement. On parle d'un investissement d'un marché de 4,5 milliards de dollars US d'ici 2030. Si les entreprises canadiennes ont suffisamment de compétences pour rentrer dans ce monde-là et aller prendre leur part de gâteau, on est bien heureux. Autrement, ça ira aux autres membres du G7.
Du 11 au 13 novembre s'ouvrira la conférence Cap Bleu 2025 à Moncton. Que pouvez-vous nous dire sur ce processus de mise en place de l'événement et de rassembler sur cette relation Canada-Afrique?
Voilà, sur cette question, sur la question du forum, le forum est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans aujourd'hui, parce qu'on voulait créer clairement une véritable plateforme crédible basée sur des données concrètes qui permet justement la rencontre à la fois d'une communauté d'affaires d'Afrique et d'une communauté d'affaires canadienne. Et là, il faut être, parce que quand les gens, il faut clarifier quelque chose d'entre deux jeux. Le forum Afrique-Canada sur l'industrie portuaire et l'économie bleue n'est pas un forum des ports. C'est un forum sur l'industrie portuaire. Quand on parle d'industrie portuaire, on ne parle pas seulement du port, on parle de l'ensemble de l'écosystème portuaire. Donc, ce qui fait que ici, on parle des importateurs, on parle des importateurs, des exportateurs, on parle de manutentionnaires, on parle des logisticiens, on parle des logisticiens du froid, on parle des logisticiens du vrac, on parle des logisticiens miniers, on parle de toutes sortes, justement, d'affaires qui vont être là. Au moment où on est en train de vous parler, nous avons 12 ports qui sont inscrits, nous avons environ une dizaine, justement, de représentants gouvernementaux qui sont confirmés, et on est heureux de pouvoir ouvrir ce premier dialogue-là. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, entre le Canada et l'Afrique, le Canada qui cherche énormément à pouvoir diversifier ses marchés, le Canada regarde vers l'Asie, le Canada regarde vers l'Europe, mais une grosse erreur, c'est que le Canada ne regarde pas beaucoup vers l'Afrique. Et le Canada ne regarde pas vers l'Afrique au moment où l'ensemble de tous les indicateurs et tous ses membres du G7 regardent vers l'Afrique. Le Canada n'y regarde pas. Il y a une raison certainement là-dedans. C'est la cécité stratégique, justement. C'est la cécité stratégique qui peut y arriver. Donc, il y a justement quelque chose qu'il faut adapter. Il y a quelque chose qu'il faut remettre sur la question. Peut-être réorganiser peut-être cette vision-là. Et on est là pour contribuer justement à cela. Il y a une stratégie canadienne qui a été sortie, c'est un bon début, c'est une bonne façon justement de commencer. Le forum vise essentiellement aussi à pouvoir contribuer à cette vision-là, pour arriver à avoir justement un engagement beaucoup plus concret du Canada. Donc, ce forum-là va se présenter beaucoup plus justement comme la première d'une série extrêmement importante qui va ouvrir des dialogues importants entre justement le Canada et la plupart des pays africains. Et quand on parle des ports, c'est parce que nous avons une vision des ports qui est complètement différente. On voit des ports comme des véritables pôles économiques, comme un crapin, ok, comme un crapin et comme une grappe économique autour duquel justement gravitent plusieurs autres affaires. Quand un port arrive, le port n'arrive pas seul, le port arrive avec des clients. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont des clients qui s'entendent, concluent des affaires et augmentent le trafic de port d'un bord de l'Atlantique à l'autre. Le forum qui s'en vient est une grande première, on est heureux. C'est déjà même un succès au moment où on se parle. C'est la preuve justement qu'il y a certainement quelque chose d'intéressant à creuser encore.
Le thème, c'est diversifier les opportunités. Est-ce que vous sentez que la demande est dans les deux sens, que ce soit au Canada et en Afrique, et aussi quel est le rôle de la diaspora pour créer cette connexion?
Le Canada compte aujourd'hui 1,5 million de personnes personnes d'ascendance africaine. C'est l'équivalent d'à peu près 4% de sa population, ou 5%. C'est beaucoup. La diaspora constitue donc justement une force sur laquelle le Canada doit pouvoir s'appuyer pour développer et ancrer son positionnement. Mais là encore, d'un point de vue personnel, quand je me balade un peu, quand je voyage un peu partout en Afrique et que je vais dans des rencontres internationales avec des administrations africaines, chacun est attaché au Canada. Il y a toujours quelqu'un qui est attaché au Canada d'une manière que ce soit. Soit parce qu'il a étudié au Canada, soit parce que son enfant étudie au Canada, soit parce que sa femme y a fréquenté, ou soit il y a toujours quelque chose qui est lié au Canada. Le Canada a un vrai appui sur le continent qui lui permettrait, par exemple, qui lui servirait d'un bon tremplin. Ça, c'est connu. Tout le monde le sait. Maintenant, il y a une différence entre avoir cette opportunité-là et transformer, et entre avoir ces relations, cette diaspora-là comme un poids, et transformer cela justement en véritable force de développement économique. Ce gap-là, il faut être capable de le trouver et de le travailler. Je ne dirais pas que des pays comme d'autres pays, par exemple du G7, d'autres pays, par exemple, comme le Japon, la Corée du Sud, qui font une percée extraordinaire sur le continent aujourd'hui. Combien d'Africains sont au Japon? Combien d'Africains sont en Corée du Sud? Mais ils ont une percée stratégique extrêmement importante dans plusieurs secteurs des infrastructures et minières sur le continent. Et donc, la place de la diaspora est essentielle dans cette démarche-là. Mais encore faut-il être capable d'effectuer une vraie réflexion autour de ces questions-là. Aussi, faudrait-il à cette diaspora-là d'être capable de se constituer, de s'organiser pour essayer d'appuyer l'effort du gouvernement. Je pense qu'il y a un vrai travail qu'il y a à faire là-dedans. Je pense qu'il y a une vraie opportunité à pouvoir travailler là-dessus. En tant que membre de la diaspora africaine au Canada, je dirige justement aujourd'hui une organisation qui œuvre justement dans l'établissement de ces ponts-là. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Nouveau-Brunswick, de pouvoir compter extrêmement sur la collaboration de certaines administrations fédérales. Parlant de la diaspora, ça prend deux personnes pour danser le tango, comme je le dis. Il y a la diaspora et il y a les autorités justement qui sont là autour. Et chacun doit pouvoir, à un moment donné, être capable de s'asseoir autour de la table et d'apporter sa pierre à l'édifice.
Vous avez travaillé à la radio, on est en train de partager votre message. Pensez-vous que avoir une radio des descendants africains ici au Canada pour raconter nos histoires, promouvoir nos entrepreneurs et parler de ce qui intéresse nos communautés, les uns et les autres, apprendre des uns des autres. Pensez-vous que c'est important d'avoir une radio africaine?
Je suis en train de bénéficier de votre radio. Je vous en remercie. C'est une preuve concrète, directe, que ça nous prend des moyens et des voix des médias propres à nous pour être capable de diffuser nos messages. On ne peut pas être plus clair. Je crois que c'est fondamental. Mais un média doit être appuyé, doit être accompagné, on doit pouvoir nourrir justement un média pour qu'il accomplisse justement son, un médium pour qu'il accomplisse les romans sa destinée. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où on est en train de parler avec 5% de la population, disons, de descendance des Canadiens, disons, c'est une question de descendance africaine, je pense encore que là, on est pleinement, ça se justifierait encore plus. En parlant aujourd'hui à votre auditeur, c'est clair justement que je parle justement au mien. Quand je dis, par exemple, au départ de mon propos, quand je disais nous devons être capables de pouvoir avoir une approche qui est moins victimaire, mais d'avoir une approche qui est beaucoup plus confiante, sûre de ce qu'on est en train de dire, et d'avoir une approche qui est moins victimaire, je parle au mien. Donc, je pense que c'est important de pouvoir avoir une radio communautaire qui parle de nos histoires, qui retrace nos histoires, parce que quelque part, les gens de notre communauté ont besoin de s'identifier justement à des role models. C'est ce que nous devons être capables de leur offrir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.